Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Ensemble, l'émission qui rend compte de l'actualité du monde associatif en Eure-et-Loire. Aujourd'hui, nous allons à Chartres au Salon des associations qui s'est déroulé il y a quelque temps de cela, le premier week-end de septembre. À Chartres, en centre-ville, l'essentiel du monde associatif chartrain, il est très important, était réuni sous un soleil d'été alors que c'était la rentrée. J'ai choisi de vous faire découvrir aujourd'hui dans l'émission Ensemble deux associations, les Scouts et Guides de France, le groupe Saint-Armand de Chartres. Et puis, pour commencer, nous allons parler aide à la parentalité avec les responsables de l'association Nido.
Après le théâtre d'improvisation, on va parler enfance, éducation avec
Manon Guillot, donc président de l'association Nido.
Alors, N-I-D-O, c'est très énigmatique pour l'instant. C'est quoi Nido ?
Nido, ça veut dire nid en italien, et le Nido, c'est aussi l'espace d'exploration pour les enfants, pour la toute petite enfance, dans la pédagogie de Maria Montessori. Voilà, mais avant tout, c'est le nid en italien.
Alors, les activités, la principale activité de votre association, c'est le soutien parental, de quelle manière ?
Alors, le soutien à la parentalité à travers des activités d'éveil et artistiques et aussi des cafés des parents, donc des conférences autour de la parentalité positive et créative, donc autour de la bienveillance. Et donc, les activités artistiques et d'éveil et de découverte sont basées sur les pédagogies actives. Donc, tous les pédagogues qui gravitent autour de Maria Montessori, Reggio, Steiner, Freinet. Donc, en fait, ce sont des pédagogies qui placent l'enfant au cœur de ses découvertes et de ses explorations. Et voilà.
Est-ce qu'on peut juste... Les gens ne connaissent pas forcément Maria Montessori. Pour beaucoup, c'est un nom d'école, école Maria Montessori. Quelle était cette personne et qu'est-ce qu'elle a apporté au monde de l'éducation ?
Maria Montessori, c'est une pédagogue italienne. Elle était médecin, elle était psychiatre. Elle a observé les enfants en Italie qui étaient laissés à eux-mêmes dans les rues. Et elle a, à partir de son observation, elle a repéré que tous les enfants avaient des périodes sensibles. Donc, ils étaient plus sensibles à certaines activités. Et ils apprenaient très rapidement et tout seul, avec du matériel et un environnement qui était propice à leur découverte et à leur manipulation. Et elle part aussi du principe que les enfants travaillent de façon individuelle, ils ont chacun leur rythme, donc ils ne vont pas tous au même rythme. Donc il y en a qui sont plus moteurs et d'autres qui sont plus dans la motricité fine. Donc voilà, le but là, c'est vraiment d'accompagner les enfants et leurs parents dans une liberté de découverte de chaque enfant.
Créativité donc personnelle, c'est ça, hein ?
Oui, voilà, créativité personnelle et de que chaque enfant puisse développer en fait son plein potentiel à travers un environnement qui est préparé et un regard, une posture de l'adulte aussi qui considère l'enfant pas comme un adulte en devenir, mais vraiment comme une vraie personne, un vrai individu dès sa naissance.
Il s'agit finalement de devenir ce qu'on est, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. C'est développer son plein potentiel, voilà, c'est développer son individu, ses particularités, son caractère, voilà, tout ça.
Une question, est-ce qu'il existe aujourd'hui, par exemple, en Eure-et-Loire, des classes qui pratiquent la pédagogie de Maria Montessori ?
Alors, depuis octobre 2017, on travaille aussi en partenariat avec l'association Montessori 28, qui a pour vocation de promouvoir la pédagogie Montessori au sein de l'Eure-et-Loire. Donc oui, il y a de plus en plus de classes, même dans les écoles publiques, qui essaient de mettre en place cette pédagogie. Il y a des écoles privées aussi, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'école hors contrat en Eure-et-Loire. Il y a des initiatives, mais il n'y a pas d'école.
Alors, j'en viens à Nido, donc vous faites le soutien à la parentalité. Ça se passe comment, en fait, très concrètement ?
Donc, on est en partenariat avec Élise Fournier, qui est consultante en parentalité créative, qui anime des cafés des parents sur des thématiques diverses. Au mois d'octobre, ce sera sur l'épuisement parental, et au mois de décembre, sur accompagner l'enfant dans son autonomie. Et une conférence aussi le 23 novembre, dans le cadre de la semaine de la parentalité qui est organisée par la CAF, sur la thématique d'accompagner son enfant avec bienveillance et créativité.
Alors moi, ça fait deux fois que vous me dites le mot bienveillant. Je me dis, mais quand on est parent, la bienveillance, ça va de soi, évidemment. Alors, c'est quoi la bienveillance selon vous, quoi, le plus ?
Alors déjà, la bienveillance, ça ne vient pas de soi. parce qu'on a tous été des enfants et qu'on n'a pas tous été accompagnés avec bienveillance. Donc parfois, même si on est plein d'intentions bienveillantes, et bien il arrive qu'on ait des comportements qui ne soient pas bienveillants et pas respectueux de nos enfants. On peut se mettre à leur hurler dessus, les prendre par le bras et les secouer, d'un seul coup se retrouver hors de nous parce que notre mémoire traumatique se réactive, et à ce moment-là on n'est plus dans la bienveillance en fait. Et ça arrive quand même assez régulièrement dans la vie de parents, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a 15 000 trucs à gérer, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, pour être bienveillant avec l'autre, il faut d'abord pouvoir être bienveillant avec soi et prendre soin de soi. Donc être à l'écoute de ses besoins, pouvoir avoir des moments et des endroits où on peut décharger, qu'il y ait des lieux de soutien à la parentalité qui puissent venir recueillir la parole du parent et puis dire mais là moi j'en peux plus, hein, j'ai juste envie de la passer par la fenêtre. Bah, quand on l'a posé, ça après on peut revenir avec ses enfants avec plus d'empathie et de bienveillance.
Donc ce sont les parents qui font appel à vous, comment ça se passe ?
Alors, il y a au sein de l'association, on propose des cafés des parents et une conférence. Et au même moment du café des parents, il y a un atelier aussi pour les enfants. Donc, on peut venir avec son enfant et participer en tant qu'adulte, en tant que parent au café des parents. Et dans l'autre salle, il y aura un atelier d'éveil musical pour les enfants. Et puis sinon, on peut faire appel à Élise Fournier aussi, qui est consultante libérale.
Oui, je suis consultante en parentalité et j'accompagne les parents qui font appel à moi, effectivement. En général, c'est rarement des gens qui me sont adressés, mais des personnes qui viennent parce que soucieuses d'accompagner leurs enfants respectueusement et puis différemment, et qui sont parfois un peu prises au piège de tous les conseils qu'on peut leur donner. Mais fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, couche-le à telle heure.
Parce que les livres concernant l'éducation, il y en a des tonnes.
Hein. Il y en a plein, mais il y en a plein dans plein de registres différents aussi. Et du coup, ce piège qui est d'imaginer que nos enfants nous manipulent et cherche à prendre le dessus sur nous, c'est un peu un gros piège relationnel en fait, parce qu'on est plus reliés dans ces moments-là avec nos enfants. Voilà, tellement on a peur de se faire avoir. Alors du coup, c'est nous qui prenons le dessus, parce qu'on imagine que pour être en relation, il faut qu'il y en ait un qui domine et l'autre qui soit dominé. Donc là, l'idée, c'est un peu de faire autrement. Donc les parents, ils viennent à différents moments. Ça peut être parce qu'ils sont soucieux de faire différemment, parce qu'ils ont besoin de soutien, parce qu'ils ont envie de partager leur expérience avec d'autres parents, parce qu'ils sont à un moment clé qu'ils ont du mal à percevoir ou qui les inquiète. Par exemple, l'aube de l'adolescence. Il y a des parents qui viennent parce qu'ils disent « Oh là là, moi c'était tellement compliqué mes relations avec mes parents quand j'étais ado que là, j'ai un peu peur de ça, mes enfants grandissent, comment appréhender ce moment-là » Ça peut être parce que l'enfant a 18 mois, 2 ans qui commence à faire des colères et que les parents se sentent particulièrement démunis face à ça.
C'est dur ce moment-là.
Mais oui, c'est tellement dur, mais oui. Mais moi j'ai été tellement démunie. C'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les parents. C'est que moi je me suis retrouvée dans des moments avec mon premier enfant notamment où vraiment je ne comprenais pas pourquoi ce bébé ne dormait jamais, pourquoi il passait son temps à téter, pourquoi il faisait des colères 3 fois 1h30 par jour et je ne savais plus quoi faire. Donc je me disais mais c'est que je ne dois pas savoir comment m'y prendre, enfin je dois être une mauvaise mère, je ne sais pas en fait. Donc voilà. Donc
vous évitez aussi aux parents la culpabilité qui vient très rapidement hein, quand on a du mal.
Bah oui. Après, moi, j'évite pas la culpabilité. Le seul truc, c'est que cette culpabilité, c'est important de savoir à quoi elle sert en fait. Alors, si elle est là à être tout le temps présente, du coup, on est complètement dans l'inaction parce qu'on est en train de complètement tourner sur nous, en train de se dire bah, de toute manière, je suis pas du tout une bonne mère, ça va pas, j'arrive pas. Du coup, on n'est pas en relation avec nous-mêmes ni avec l'autre. Donc là, la culpabilité, elle est paralysante. En revanche, si la culpabilité, on s'en comme un signal d'alerte qui nous dit mais là en fait c'est pas comme t'as envie que ce soit, donc qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que la relation elle soit comme toi t'as envie de la vivre. Voilà, bah là du coup c'est intéressant. Donc moi j'empêche pas la culpabilité, mais en tout cas j'essaye d'accompagner les parents pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'elle peut leur dire et en quoi elle peut leur être bénéfique cette culpabilité.
Vous avez peut-être prononcé le mot-clé tout à l'heure, vous avez parlé de relation à soi aussi, de relation à soi-même. Et ce sont des relations qui sont aussi difficiles.
Oui, c'est difficile. Et je trouve que quand on a des enfants, eh bien on n'a plus d'autre choix que de commencer à prendre soin de soi, parce qu'on ne peut pas écouter les émotions de son enfant si nous on n'a pas d'espace où on est écouté dans les nôtres. On ne peut pas répondre aux besoins de nos enfants si nous on ne prend pas soin de nos besoins. Ça ne fonctionne pas. Et ça je le sais par expérience, parce que moi j'ai vraiment voulu effacer qui j'étais pour être complètement mère et être complètement là pour mon enfant, pour répondre à tout ce qu'il fallait pour que lui soit bien. Sauf que moi j'étais tellement mal que du coup il ne pouvait pas être bien.
Donc, c'est terrible pour l'enfant d'ailleurs. Quand on ne vit que pour lui, c'est terrifiant, non ?
Bah oui, après c'est toujours cette question de se dire avoir conscience aussi, mais moi j'aime bien travailler sur cette base là, c'est quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant. Et en fait tout ça, ça va pas passer par des mots, mais ça va passer par une incarnation et des actes. C'est-à-dire quel adulte je suis. Je peux pas me dire j'ai envie que mes enfants soient heureux si moi dans ma vie je suis pas heureuse en fait. Donc qu'est-ce que moi je vais cultiver dans ma vie pour être une personne épanouie et que ça donne envie de devenir un adulte responsable. Voilà.
À votre avis, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être parent qu'avant? On mène des vies trépidantes aujourd'hui.
Est-ce que c'est plus difficile? Alors moi, je ne sais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas été parent avant. Moi, je suis devenue parent en 2007, donc j'en sais rien. Ce qu'il y a en tout cas,
c'est... On a un rythme qui est très soutenu aujourd'hui.
Mais on a un rythme qui est soutenu, mais en fait, on en est responsable aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est à nous, chacun, de prendre conscience que bah, si la vie qu'on mène, elle ne nous convient pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire évoluer ça? Et puis, il y a une autre idée qui m'est venue, mais là, du coup, je l'ai perdue. Mais tant pis. Non, je sais
pas. Ce sera pour l'année prochaine.
Ce sera pour l'année prochaine. C'est ça.
Alors, je reste juste pour. Vous avez parlé des activités en disant que la culture, par exemple, est importante, ou peut-être le jeu. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de jeux ou de pratiques culturelles qui ont cours dans vos ateliers?
On propose donc de l'éveil musical parent-enfant et enfant-seul aussi. Donc la culture et la musique créent du lien social entre les enfants et entre les adultes. On propose aussi du yoga parent-enfant et du massage en famille pour apprendre à se poser et à justement recréer des liens entre les parents et puis les enfants. Donc pour l'instant, c'est le programme jusqu'au mois de décembre. Et à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, on refera un nouveau programme.
D'accord. Pouvez-vous nous donner vos coordonnées?
Alors, c'est lasosnido@gmail.com. On a une page Facebook aussi, Atelier Alternatif Chartres.
Maybe your friends think to haunt God's golden shore.
He'll meet you on God's golden shore.
Man of Constant Sorrow par Dan Timinsky. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, de la chanson de la bande originale du film des frères Coen, Oh Brother. On retrouve sans plus tarder le salon des associations de la ville de Chartres. C'était le premier week-end du mois de septembre. Je vous propose de faire la connaissance des scouts et guides de France, une association qui permet aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, de s'épanouir en pleine nature.
J'ai avec moi, eh bien, ils vont se présenter, tiens, aux auditeurs de Radio Grand Ciel.
Caroline Calès, donc je suis responsable de groupe des scouts et guides de France de Chartres.
Et Thibaut Sewell, donc je suis chef des 11-14 ans au groupe de Chartres.
Alors vous présentez tous les deux donc les scouts de France de Chartres, le groupe Saint-Armand. C'est un groupe qui est en plein boom, il y a plein de jeunes et de plus en plus, chaque année on voit des parents qui vous amènent leurs enfants, non ? J'ai ce sentiment-là ?
Oui, c'est ça, on a toujours plus de demandes et voilà, plein de gens qui s'intéressent au scoutisme.
Alors ce sont des enfants à partir de quel âge ?
Donc à partir de 6 ans. Donc 6-7 ans, c'est les petits farfadets, c'est une initiation. Et après, on a les jeunes entre 8 et 17 ans, même qui sont encadrés par des chefs.
D'accord. Donc il y a les louveteaux
Jeannette, 8-11 ans, scout et guide 11-14 et pionnier caravelle 14-17 ans. Puis les grands, les compagnons après 17 ans.
Alors là, je m'adresse à Thibaut Sewell, que j'ai connu plus jeune, allez, j'ose la dire, qui était scout, qui est maintenant chef scout. Comment vous êtes venu au scoutisme, Thibaut ?
C'est mes frères qui avaient déjà été scouts et mes parents aussi, et qui un jour m'ont proposé de commencer l'aventure, et j'ai dit oui. Et 11 ans plus tard, je suis encore là.
Vous avez commencé à quel âge ? Vous avez fait toute la...
Ah, j'ai fait toutes les tranches, à part les compagnons, j'ai commencé à 8 ans du coup, en 2007.
Qu'est-ce qu'on trouve chez les scouts de France qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve peut-être pas dans des centres de loisirs, qu'on trouve pas... Il y a une pédagogie particulière, non ?
Oui, il y a une pédagogie adaptée à chaque tranche d'âge qui est basée sur la découverte de la nature, la prise d'autonomie aussi, sur le développement d'un groupe, monter un projet et avancer ensemble. Pour faire les choses que les jeunes choisissent aussi. Alors, les jeunes qui choisissent leur projet.
Alors selon l'âge, bien sûr, ils vont pas faire les mêmes choses. Par exemple, les louveteaux, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils jouent. Ils jouent. Ils découvrent la nature, comment camper, comment monter une tente, faire à manger au feu de bois, allumer un feu, voilà.
C'est des choses que tous les enfants rêvent de faire finalement et que vous leur offrez, hein. Faire un feu, c'est monter une tente, c'est jouer au cow-boy, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors, après, plus grand, quand on est, par exemple, vous êtes chef bleu, donc chef des scouts, ils ont, rappelez-nous quel âge ?
Entre 11 et 14 ans.
Entre 11 et 14 ans, donc qu'est-ce qu'ils font ? Là, par exemple, vous êtes parti cet été, je crois, en Touraine, pour un camp qui a duré une dizaine de jours. Qu'est-ce qu'ils font pendant 10 jours ?
Pendant 10 jours, la différence entre les 11-14 ans et les 8-11 ans, c'est que la pédagogie scout est très axée sur la vie en équipe. Donc ils ont beaucoup de moments en équipe, ils partent 2 jours en autonomie, marcher et camper sans leur chef. On les accompagne quand même.
Il y a des veillées aussi, les veillées c'est très important, je sais que...
Oui, c'est ça, ils organisent des veillées en équipe, ils créent leurs activités, leurs jeux... Et découvrir des choses.
Puis au cours de l'année, on leur donne par rapport aux louveteaux, et même on le voit aussi aux pionniers, ils ont de plus en plus de responsabilités. Donc aux 11-14 ans, aux bleus, ils ont des rôles, chacun un rôle. Il y en a un qui est responsable de l'infirmerie, un qui est responsable de communication. Et donc au-delà de leur exploration l'été, donc les 2 jours où ils partent, ils organisent dans l'année des week-ends en équipe, en autonomie aussi. Donc c'est à eux de monter leur truc, donc on les assiste là-dedans, et on les assiste un peu moins aux 14-17 ans, aux pionniers caravelle après. Et ce qui est très intéressant chez les scouts, et comme la question que vous posiez tout à l'heure, la différence entre un centre aéré et les scouts, c'est que c'est des enfants qui se connaissent et qui se suivent, pour ceux qui font toutes les tranches d'âge, qui commencent à 8 ans et qui jusqu'à 17 ans, et c'est toujours les mêmes amis, donc ils sont plus soudés. Et même nous, enfin moi je le vois depuis cette année en tant que chef, ce qui est fort c'est de les voir évoluer au fur et à mesure du mois de septembre au mois d'août, c'est plus les mêmes à la fin de leur camp que quand on les a pris au début de l'année.
C'est bien, faut dire aux parents qui se plaignent toujours que leurs enfants ont du mal à prendre des responsabilités, que c'est réellement on offre une liberté, un espace de liberté, mais de liberté quand même surveillée. Les chefs sont là évidemment pour faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi.
Oui bien sûr, après c'est des camps qui sont déclarés à la DDCS, qui sont, enfin voilà, on a des chefs formés qui encadrent les jeunes et qui apprennent à gérer les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.
Alors évidemment, ils apprennent à faire du feu, ils apprennent à monter une tente, mais ils apprennent, par exemple, quand ils font des week-ends autonomie, à faire des comptes, à faire des courses, hein, c'est ça ?
C'est ça, on leur donne un budget, il faut qu'ils respectent le budget. Ils sont obligés de s'y tenir. Ils ont d'autres contraintes. Ils n'ont pas le droit de faire de feu, donc il faut qu'ils adaptent leur menu. Enfin, ils n'ont pas le droit de faire le feu en autonomie. Hein. Il faut qu'ils fassent leurs courses, il faut qu'ils organisent le transport, il faut qu'ils trouvent un lieu de camp. Et le lieu de camp doit être dans un certain périmètre avec telle et telle contrainte. Donc, oui.
Alors, les réunions du groupe Saint-Armand, ça se passe comment en fait ?
Alors, il y a des réunions minimum une fois par mois, une à deux fois par mois, il y a des rencontres qui se passent souvent quartier Rochèvre. Et voilà, donc selon la disponibilité des chefs, les réunions sont organisées en unité. Et il y a aussi des week-ends d'organiser, donc soit en unité, pareil, ou des week-ends de rentrée, des week-ends de fin d'année avec toutes les tranches d'âge, tout le groupe. Et donc voilà, ça se passe sur un week-end.
Je précise aussi, parce qu'on n'a pas parlé par exemple des pio ou des compagnons, que là les projets après, c'est des projets qui permettent aux jeunes de voyager très très loin. L'an dernier les pionniers sont partis en Slovénie, ça peut aller loin. Hein.
Oui ça peut aller loin, plus l'idée c'est plus on avance et plus on peut partir loin, prendre des plus grandes responsabilités. Et donc les compagnons souvent finissent par un projet de solidarité à l'international.
Deux mots sur les compagnons. Les compagnons, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a une dimension humanitaire. Les compagnons, c'est les plus grands ?
Oui, c'est ça. Les 17-19 ans.
Alors, qu'est-ce qu'ils font, les compagnons ?
Eh ben, alors, eux, ils ne sont plus encadrés par des chefs. Ils doivent monter leur petite équipe de 4 à 8 jeunes et faire équipe et monter leur projet pour réussir à avoir les financements nécessaires, les partenariats nécessaires.
Et à chaque fois, c'est un projet humanitaire. Il y a quelques années, par exemple, ils sont allés au Pérou pour aider des jeunes, des enfants d'un bidonville. Donc, c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là, quoi. Vous-même, c'est pareil, vous avez fait tout le parcours. Vous avez commencé les scouts quand ?
Non, moi j'ai pas du tout fait tout le parcours. Je suis arrivée en tant que chef ten pionnier caravelle. Voilà, j'étais avec une colocatrice scout qui m'a initiée, ouais.
Voilà. Très bien, une dernière chose et c'est peut-être la plus importante, c'est qu'évidemment vous avez tellement de succès qu'on peut dire que vous êtes victime de succès au Scout de France et vous manquez de chefs pour encadrer certaines tranches d'âge. Dites-nous ça.
C'est ça, on est par tranche d'âge, on a besoin de chefs encadrants, d'un certain nombre de chefs pour assurer comme il faut les activités et la bonne prise en charge des enfants. Et donc on est à la recherche de chefs et cheftaines qui aiment animer, être avec les enfants, monter des projets avec les enfants. Donc surtout pour les 8-11 ans et 11-14 aussi. Enfin, on est à la recherche de plein de chefs.
À peu près, donc pour toutes les tranches d'âge, je crois.
Oui, et des chefs qui sont qui ont entre 17 et 30 ans, qui aiment l'animation, qui aiment être avec les jeunes. Il n'y a pas besoin de formation spécifique. Hein. Les scouts et guides de France ont aussi des propositions de formation au sein des scouts et guides de France. Il y a des formations au BAFA auxquelles on peut participer financièrement pour aider à les former.
Ouais, les chefs ne sont pas lâchés dans la nature comme ça avec les jeunes. Si on souhaite venir en aide aux scouts de France, on peut appeler, on peut écrire une adresse mail.
Oui, sgdfchartres@yahoo.fr ou nous appeler, nous les responsables de groupe, au 06 89 36 99 80.
Merci. Et puis, alors, je crois qu'il y a un week-end d'accueil hein, des nouveaux enfants. Et puis, là, peut-être que des jeunes chefs, s'ils le souhaitent, peuvent se présenter.
Tout à fait.
Ça sera quand ?
Le week-end de rentrée, le 22-23 septembre. Donc, on accueille tous les chefs, chefs et cheftaines.
Et ce sera où ?
À Chartres, à la Visitation.
À la Visitation, rue d'Alire. Merci beaucoup à tous les deux. Bon courage. Hein.
Merci.
Voilà, les Scouts de France, un beau mouvement qui perdure, hein, puisque cela existe depuis bien plus de 100 ans, je crois. Un mouvement créé, rappelez-vous, en Angleterre, par monsieur, ou même peut-être sœur Baden-Powell. Cette émission Ensemble se termine. On a rendez-vous avec le monde associatif chartrain dans 4 semaines. D'ici là, eh bien, restez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes.